Deutsche Welle. Droits et libertés.
C'est l'un des sujets phares de l'actualité africaine depuis un an. Je veux parler de la République centrafricaine, ballottée entre groupes armés plus brutaux les uns que les autres. Le constat dressé par une experte des Nations Unies est accablant, nous l'entendrons. En seconde partie, et alors que l'extrême droite gagne du terrain en Europe, nous nous pencherons sur le racisme en politique. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine qui vous est proposé par Marie-Ange Pierron. Avant d'évoquer les atrocités commises en Centrafrique, un mot du Burundi. Ces dernières années, le pays semblait avoir retrouvé le chemin de la paix. Les accords d'Arusha signés en 2000 avaient mis fin à plus d'une décennie de guerre civile. Mais voilà, tout semble à nouveau déraper dans ce petit pays des Grands Lacs. La répression de l'opposition tourne à plein régime. Et le président en exercice, Pierre Nkurunziza, entend briguer un troisième mandat en 2015. Après le rejet par le Parlement d'un projet de réforme constitutionnelle levant le verrou de la limitation des mandats, le chef de l'exécutif veut faire valider son ambition par la Cour constitutionnelle. Bref, le climat est de plus en plus délétère au Burundi. Pacifique Ninina Hazwe du Forum pour le renforcement de la société civile.
Nous sommes dans une situation de tension politique très profonde. D'un côté, le pouvoir fait tout donc, pour promouvoir d'abord cette candidature du président Nkurunziza et de l'autre pour faire taire toutes les voix discordantes, y compris faire taire l'opposition du Burundi. Les militants du MSD, un des partis politiques proches de la minorité Tutsi, leur président est recherché par la police, Alexis Nduhije, tandis qu'une soixantaine de ses militants sont en prison. Le ministère public a requis la perpétuité contre juste des manifestants, ce qui n'est pas normal. On les accuse d'insurrection et c'est une situation qui peut déborder et qui pourrait facilement nous conduire à une autre guerre civile.
Des propos recueillis par Delphine Schiltz. Un pays en lambeaux, des populations affamées et terrorisées, une violence qui dépasse l'entendement. Après des décennies de dérives totalitaires, la Centrafrique est au fond de l'abîme. Des militaires français et africains sont sur place. Des soldats européens et des casques bleus de l'ONU suivront, peut-être. Mais en attendant, l'impunité règne en maître. Marie-Thérèse Keïta Bokoum a pu s'en rendre compte. Cette experte indépendante de l'ONU pour la situation des droits de l'homme en Centrafrique s'est rendue sur place du 4 au 14 mars dernier. Elle a fait un premier rapport oral la semaine passée devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Au micro d'Éric Topona, elle revient sur cette mission.
Je suis allée à Bangui, mais aussi à l'intérieur du pays, notamment dans une ville, une région, la région de Kagabandoro, où j'ai pu m'entretenir avec la plupart des acteurs de la crise qui s'y trouvent. Et dans Bangui même, je suis allée à plusieurs endroits, notamment des camps de déplacés, autour de l'aéroport, dans des quartiers sinistrés. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de personnalités politiques, des femmes leaders, des représentants des associations des droits de l'homme, les représentants du corps diplomatique et aussi, bien sûr, les représentants du gouvernement de transition avec à leur tête la chef de l'État.
Vous avez plaidé durant votre séjour en République centrafricaine à une action plus robuste de la communauté internationale en RCA. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, la République centrafricaine est vraiment au bord du chaos. Du chaos pour plusieurs raisons, pour des raisons de sécurité, mais qui sont, je crois, dues à des questions d'origine politique et socio-économique, c'est-à-dire la malgouvernance depuis de longues années et aussi les gestions un petit peu désastreuses, hein, le népotisme. Les difficultés politiques aujourd'hui ont eu un effet sur la situation socio-économique, il y a une totale déliquescence du tissu social. Et bien sûr, avec la crise actuelle, il y a une déliquescence aussi du tissu économique, puisque la plupart des opérateurs économiques qui sont musulmans sont partis ou n'opèrent plus. Alors quand je dis une action plus robuste, je parle vraiment d'action de renforcement de ce qui existe déjà, de manière plus qualitative. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des forces, mais ce qu'il faut vraiment, c'est apporter un soutien consistant en gendarmerie et à la police pour qu'ils puissent procéder à la sécurisation des quartiers, parce qu'ils font bien sûr des patrouilles, mais qu'ils puissent aussi aider à l'arrestation des malfrats et des personnes qui commettent des exactions. Et ensuite, une fois que ça a été fait, qu'ils puissent procéder aux enquêtes et en plus sécuriser la justice, sécuriser les juges, sécuriser les institutions carcérales. En fait, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne vraiment, c'est celle qui est à Bangui. Et pour qu'on puisse maintenir la chaîne pénale, c'est-à-dire de l'identification des malfaiteurs jusqu'au jugement final et au maintien et à la gestion des centres pénitentiaires.
Vous avez également déploré le fait que l'insécurité et la violence continuent d'être entretenues par les différents groupes armés en RCA. Vous avez eu des preuves ?
Bon, je me suis rendue à l'intérieur. Et juste dans une région, où, à Kagabondo, où déjà il venait d'avoir des événements qui avaient eu lieu le 26 février. Et au cours de ces événements, il y a des civils qui ont été tués. Donc, et c'était des affrontements entre deux groupes armés. Ce n'est pas un secret, c'est des affrontements entre les ex-Séléka et les anti-Balaka. Donc déjà ça, c'est une preuve. Ensuite, j'ai fait des interviews, j'ai eu des photos, j'ai fait des visites et j'ai aussi vu à Bangui que des membres de certaines communautés ne peuvent pas circuler librement, ni à Bangui, ni à l'intérieur. Et ça, c'est valable aussi pour toutes les communautés, parce qu'il n'y a pas que les musulmans aussi qui sont empêchés de circuler. Il y a aussi ceux qui ne sont pas musulmans qui, lorsqu'ils vont au champ, rencontrent aussi une certaine hostilité, une certaine sont livrés aux exactions. Et on m'a rapporté des exactions, notamment de pasteurs Peul, dans certaines régions qui empêchent aussi les populations de circuler dans ce domaine-là. Donc il y a quand même des groupes armés ou des gens qui se sont armés pour des groupes autodéfense, milices qui pensent et qui agissent. Et il y a aussi des réactions à leurs agissements. Donc ça crée un climat de terreur et la population est traumatisée.
Marie-Thérèse Keïta Bokoum, l'experte indépendante de l'ONU pour la situation des droits de l'homme en Centrafrique. Depuis plusieurs années, des personnalités politiques issues de l'immigration ou originaires de territoires d'outre-mer sont victimes de racisme en Europe. Fin 2013, la ministre française de la Justice, Christiane Taubira, et l'ancienne ministre italienne de l'intégration, Cécile Kyenge, ont subi des insultes racistes. Pour Christiane Taubira, ce sont des caricatures, la représentant en guenon. Pour Cécile Kyenge, des jets de bananes et même un appel au viol. Anne-Claude Martin revient sur cette montée du racisme contre certains responsables politiques en Europe.
Depuis quelques années, la presse européenne recense les attaques racistes contre les personnalités politiques. Les cas de Christiane Taubira en France, de Cécile Kyenge en Italie ou encore de Ricardo Lumengo en Suisse sont loin d'être isolés. S'agit-il vraiment d'une augmentation du racisme en Europe ? Pour Georgina Ciclossi du Réseau européen contre le racisme à Bruxelles, il s'agit davantage d'une libération de la parole raciste à cause de la crise économique et des politiques d'austérité.
C'est vrai que nous remarquons en effet que les discours racistes sont devenus plus acceptables et qu'ils sont de plus en plus agressifs aussi. Et on remarque aussi que de plus en plus la liberté d'expression est utilisée pour justifier en fait le droit d'offenser les minorités ethniques ou religieuses et d'inciter à la haine. Et ça reflète aussi en fait un manque de volonté politique pour délégitimer ce genre de discours de haine et pour vraiment défendre des politiques d'inclusion sociale et d'égalité.
Dans plusieurs pays de l'Union européenne, comme les Pays-Bas ou la Grèce, les partis politiques d'extrême droite progressent. Pour le député socialiste allemand d'origine sénégalaise Karamba Diaby, le racisme est plus visible en période d'élection.
Bon, je pense que ça a toujours existé. Très souvent, quand il y a les élections qui s'approchent, certaines forces de la droite essaie d'utiliser certains sentiments contre les immigrés et contre d'autres personnalités et pour activer les sentiments racistes contre les politiciens et autres.
Karamba Diaby a lui aussi été victime de racisme par le passé, même si depuis son élection au Parlement allemand en septembre dernier, il affirme ne pas subir de discrimination.
Dans mon cas personnel, il faut dire que c'est dans le passé où il y a eu des actions de certains groupes au niveau de Internet qui sont échauffés contre moi. Dans le cadre de mon travail actuel et aussi dans la campagne électorale dernière, je n'ai pas été victime d'une telle attaque. Naturellement, à l'extérieur du Bundestag, dans les déclarations de certaines personnes politiques, bon, il y a eu des propos qu'on peut même taxer de racisme. Mais je dis non, moi je ne suis pas témoin de cette déclaration au niveau de notre Parlement.
Pour Georgina Sicle aussi, les attaques racistes montrent la peur d'une classe dominante de perdre des privilèges face à une société européenne plus multiculturelle. Mais s'il y a davantage de responsables politiques issus de l'immigration à des postes importants, cela montre avant tout une évolution au sein même de la société.
C'est plutôt un signe positif que la société dans son ensemble accepte le fait que la société est devenue plus multiculturelle et plus multiethnique. Et c'est aussi lié au fait que les gouvernements sont souvent, devraient en tout cas être représentatifs de leur électorat. Et comme il y a un électorat de plus en plus diversifié en Europe, ils sont également mieux représentés dans les postes politiques et gouvernementaux.
De son côté, Karamba Diaby est lui aussi confiant. Il est certain qu'à l'avenir, on verra davantage de personnalités issues de l'immigration accéder à des postes politiques importants.
Oui, ça va changer parce que la structure de la population dans nos pays, c'est une structure qui n'est pas constante. Et je suis très très sûr que dans 4 années, le taux va augmenter parce que on a très longtemps nié l'existence de la compétence des gens d'origine immigrée dans notre pays et ça va changer aussi l'image et aussi la qualité des débats.
Il est peu probable que le racisme disparaisse un jour en Europe, mais beaucoup de voix exigent que l'UE adopte une position claire contre le racisme, surtout avec les élections européennes qui approchent. Rappelons que la devise de l'Union est unie dans la diversité.
Nous arrivons maintenant au terme de ce magazine Droits et Libertés. Merci de votre fidélité. Au micro, Marie-Ange Pierron.